dans mon île.
Radio Éthique vous propose de partir sur l'île des Ambiers en compagnie de Pascal Marcadjin. Notre journaliste globe-trotteuse est allée à la rencontre de Patrick Lelong, chercheur pour l'Institut Paul Ricard. Patrick Lelong, on est vraiment sur un endroit qui est paradisiaque, hein, l'île des Ambiers, surtout en été, c'est absolument magnifique. Au demeurant, c'est pas seulement un endroit de plaisance, c'est là où vous-même, vous êtes chercheur et vous travaillez depuis quand en fait, hein?
Moi, je suis sur l'île des Ambiers depuis 1975. Je suis arrivé ici comme stagiaire, je finissais mes études, ensuite j'ai fait ma thèse ici sur l'île et puis dans la foulée, j'ai été embauché à l'Institut océanographique.
Ça vous fait déjà un bon bout de carrière en tant que quoi ?
En tant que biologiste marin, hein, j'ai commencé à travailler sur des diatomées, donc ce sont des petites algues qui composent le plancton en partie. Et puis petit à petit, avec l'évolution, j'ai changé un petit peu d'orientation, toujours dans le milieu marin. Je m'occupe plutôt des organismes benthiques, donc qui vivent sur le fond, accrochés ou au voisinage du fond, et particulièrement les poissons. Et en particulier le mérou.
Symbolique de la Méditerranée, le mérourin, voilà. Quand on s'occupe du benthique, ça veut dire qu'on plonge. Qu'est-ce qu'on voit en Méditerranée ?
On voit de très 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 belles choses. C'est peut-être un petit peu moins coloré en ce qui concerne les poissons surtout que les eaux tropicales, mais pour le reste de la faune ou de la flore, il y a des paysages magnifiques qui valent bien les mers tropicales.
La recherche, c'est vraiment un axe majeur de l'Institut depuis sa création. On sent que ça force encore plus vers la recherche.
Quand Paul Ricard a créé l'Institut océanographique, qui s'appelait l'Observatoire de la mer en 1966, donc il y a plus de 45 ans, lorsqu'il l'a créé, il a voulu lui donner une double vocation, une vocation de recherche, parce qu'il voyait bien, c'était l'objet de la création de l'Institut, c'était les problèmes de pollution, entre autres, de la Méditerranée, de sauvegarde de cette Méditerranée, donc... La recherche. Et puis, pour lui, c'était indissociable, après d'autres l'ont compris, mais à l'époque, c'était un petit peu un pionnier, c'est de sensibiliser les gens, de leur faire comprendre que, justement, la Méditerranée, la mer, l'environnement, d'une manière générale, sont des choses qui peuvent être menacées par les actions de l'homme, et que c'est en sensibilisant les gens qu'on arrivera à progresser dans ce domaine.
Quelles sont les plus grandes catastrophes ?
On a relativement de la chance que la Méditerranée a été préservée des grandes catastrophes, notamment des pollutions par les hydrocarbures. Il n'y a pas eu de grandes marées noires en Méditerranée, il y en a eu quelques-unes, mais assez modestes. Mais par contre, le problème de la Méditerranée, c'est que c'est une mer quasi fermée, avec très peu de renouvellement, qui n'a pas de marée. Les pollutions qui s'y exercent vont prendre une ampleur un peu plus grande qu'ailleurs, où il y a des phénomènes de dilution qui vont finalement atténuer les problèmes de pollution. Pendant longtemps, le problème principal a été les rejets urbains, c'est-à-dire les égouts hein, des grandes villes qui étaient rejetés à l'époque directement en mer sans aucun traitement. Mais bon, depuis 25-30 ans, c'est quelque chose qui a été mis en place notamment dans les pays du nord de la Méditerranée et maintenant toutes les grandes villes, toutes les communes pratiquement du littoral ou même de l'intérieur des terres sont équipées de stations d'épuration de plus en plus performantes et on peut dire maintenant que dans ce domaine-là au moins, la pollution est bien moindre que ce qu'elle était auparavant.
Alors, il y a une chose qui est étrange à l'Institut, ce sont ces fameuses écloseries. Hein, on donne naissance à des espèces naturelles. Lesquelles d'abord et comment est-ce que ça se passe ?
Une écloserie, c'est un endroit où on va éventuellement traiter les géniteurs, le papa et la maman de certaines espèces, provoquer ou non, ou attendre que ça se passe tout seul, la fécondation, la reproduction, et ensuite élever les jeunes, les bébés. Jusqu'à un certain stade, c'est toujours des choses assez compliquées, notamment chez les poissons ou chez certains invertébrés. Ce sont toujours les premiers stades de la vie qui peuvent être quelquefois relativement simples, mais souvent c'est assez compliqué avec des conditions très rigoureuses de température, de salinité, d'éclairement, des nourritures bien spécifiques qu'il faut apporter en permanence, en abondance. Ces nourritures-là sont en général des proies vivantes, donc il faut les produire. Donc c'est toujours assez compliqué, donc il faut être dans un milieu qu'on arrive à maîtriser le plus possible, surtout ces paramètres-là. Et donc on a installé ici sur l'île des Ambiers une écloserie, mais expérimentale, donc c'est pour faire des expériences, pour essayer de mettre au point des méthodes d'élevage de certains animaux. Évidemment, on travaille essentiellement sur des animaux qui posent problème dans la nature.
Comment se fait-il que ça pose tant de problèmes alors que c'est entre guillemets si simple dans la nature ?
Dans la nature, c'est très simple, ça fonctionne tout à fait simplement et naturellement. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une perte énorme lors de la reproduction. Par exemple, un loup va pondre 1 million d'œufs par kilo. Et dans la nature, si on estime que la population est en équilibre, un couple va donner un couple capable de se reproduire. Donc sur ces dizaines de millions de bébés, finalement, il va en rester deux qui seront capables de se reproduire. Donc une perte énorme. L'avantage de l'écloserie, quand on arrive à maîtriser ce genre de choses, c'est qu'on va augmenter de façon très très importante ce pourcentage de survie en maîtrisant, en contrôlant, en évitant qu'il y ait de la prédation, de la mortalité, etc. Et donc on va arriver à des chiffres quand même beaucoup plus raisonnables, entre guillemets, puisque quand même la nature, ça fonctionne quand même bien.
Les hippocampes, ça sert à quoi d'essayer de reproduire ?
Alors, on travaille sur plusieurs espèces. Évidemment, donc, des espèces qui ont des problèmes dans la nature. On sait maintenant que les hippocampes, il y a deux espèces d'hippocampes en Méditerranée. Ces deux espèces sont en voie de diminution. On n'a pas de chiffres très précis parce que c'est très compliqué à les trouver dans la nature. Mais si on interroge les pêcheurs qui en prenaient de temps en temps auparavant, qui maintenant en prennent de moins en moins. Donc, ça veut dire que la population diminue. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être des problèmes de pollution et probablement des problèmes de dégradation de leur milieu naturel. Donc ces deux espèces d'hippocampes ont été classées espèces strictement protégées par la Convention de Berne, qui est une convention européenne que la France a ratifiée. Malheureusement, depuis 1999, la France n'a pas encore pris des arrêtés qui vont permettre d'en faire véritablement des espèces qui soient protégées. Mais on m'assure au ministère de l'Environnement que c'est quelque chose qui est vraiment sous le coude et qui va arriver très très rapidement. Donc dans la nature, peu d'hippocampes, de moins en moins d'hippocampes, donc on va essayer de faire quelque chose. Pour le moment, donc, on travaille sur ces espèces-là, on essaie de trouver des techniques qui vont permettre d'élever ces bébés hippocampes. C'est assez compliqué parce qu'ils sont tout petits, ils ont une toute petite bouche, ils sont assez difficiles quant à la qualité de la nourriture.
C'est un drôle de poisson parce que c'est un poisson, un hippocampe.
Oui, c'est un poisson très bizarre avec plein de particularités très spécifiques. Entre autres, mais enfin, je crois que beaucoup de gens le connaissent, c'est le papa qui porte les œufs dans une poche incubatrice ventrale et qui va accoucher, entre guillemets, des petits bébés hippocampes. Et donc, on essaie de produire ces hippocampes. Alors, pour le moment, les bébés qu'on arrive à maintenir et à amener à l'âge adulte, on les distribue aux aquariums publics qui présentent de la faune méditerranéenne. Ça évite d'aller les récupérer dans le milieu. Et puis, dans le futur, on espère pouvoir peut-être éventuellement en réimplanter dans le milieu naturel pour augmenter un petit peu les stocks. Mais il ne faut pas faire ça un peu n'importe comment. Et on travaille là-dessus aussi, sur l'hippocampe, mais aussi sur d'autres espèces, de savoir quel est l'intérêt de relâcher des animaux qu'on a commencé à élever en élevage, de les relâcher dans le milieu naturel. Est-ce qu'ils vont s'adapter? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce qu'ils ne vont pas perturber les populations qui étaient là déjà auparavant? Et puis surtout, il faut, notamment dans le cas des hippocampes, si ça se fait, les relâcher dans des endroits où ils étaient déjà présents auparavant et vérifier que le milieu peut les accepter.
Il y a déjà des expériences qui ont été faites de relâcher?
Pas avec les hippocampes, parce que ça ne fait pas encore assez longtemps qu'on travaille là-dessus. Mais on travaille sur ce problème-là avec des oursins. Également l'oursin comestible, très apprécié ici, entre autres, sur la côte méditerranéenne. Et le stock d'oursins est en train de diminuer un petit peu partout. Et on a été au départ contacté il y a plusieurs années par des conseils généraux ou des municipalités pour produire des oursins et les relâcher dans le milieu, ce qu'on a fait. Et puis au bout de 2 ans, on a dit, mais peut-être que ce qu'on fait là, ça sert à rien. De relâcher 30 000 bébés oursins dans un endroit, peut-être que ça sert pas à grand-chose, peut-être qu'ils meurent tous. Donc il faut travailler, et on travaille là depuis un peu plus d'un an maintenant, sur des implantations de ces bébés oursins à différents endroits avec un contrôle, un suivi, une carte génétique des bébés que l'on relâche pour aller régulièrement sur le site et voir si ceux qu'on a relâchés, ils sont toujours là, s'ils ont survécu, s'il n'y a pas de problème avec les populations locales, etc. Donc ça, c'est un programme en cours. Donc c'est quelque chose qui nous servira aussi après, éventuellement pour les hippocampes, si on arrive au stade où on peut en relâcher à l'extérieur.
Les chasserie, ça c'est vraiment un de vos fers de lance.
Oui, donc on a différents programmes de recherche. Ça, c'est un des programmes qui nous occupe beaucoup. Mais sinon, on travaille aussi sur la biodiversité d'une manière générale avec des études du milieu naturel, savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau, comment ça évolue au cours du temps, etc. Par exemple, on a travaillé autour des Ambiers pour faire le bilan, l'état zéro lors du classement des eaux autour des Ambiers en zone Natura 2000, qui est une style de mise en valeur, de mise en exergue d'une qualité biologique environnementale très importante par des experts européens. Donc ils ont dit autour des Ambiers, c'est bien, c'est sympa, il y a de belles choses. Donc on va le mettre en zone Natura 2000. Et la première étape, c'est de faire un bilan écologique. Donc recenser un petit peu tout ce qu'il y a, tous les habitats qui sont là, de qualifier l'état dans lequel sont ces habitats. Ici, c'est très bien, il n'y a rien à faire. Ici, c'est pas terrible à cause de telle et telle et telle chose. Ensuite, une fois que ce bilan est fait, il y a une étape de concertation avec tous les usagers de la mer pour dire, bon, ben voilà, alors à tel endroit, on a vu qu'il y avait un problème qui était dû à ça ou ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour remettre en valeur cet état physiologique ou biologique sans nuire du tout aux activités économiques, voire même en développant les activités économiques? C'est ça le but de Natura 2000, hein, c'est de conserver, voire améliorer un état environnemental, mais en conservant, voire améliorant les activités économiques qui sont liées.
Vous plongez, vous allez voir, et vous avez entre guillemets votre calepin, vous notez absolument tout.
Voilà, c'est pas un calepin, c'est une tablette sur laquelle on peut écrire, on prend des photos, on fait des prélèvements, on fait des observations. Puis après, il y a un travail d'analyse à faire, hein, de comptage, de détermination, et tout ça, ça nous permet ensuite d'évaluer l'état ou de faire un bilan, puisque Natura 2000, ça concerne des espaces, des aires marines protégées, hein, c'est un classement européen.
L'Institut océanographique Paul Ricard, il est situé comment, en fait, plutôt comme un emblème, comme un institut qui a un rôle exemplaire au sens étymologique du terme? Est-ce qu'il a un effet d'entraînement?
Il a une place tout à fait particulière, hein. Il a toujours eu une place particulière. D'abord, c'est la seule organisation, si vous voulez, qui ne dépend pas du CNRS, de l'université, d'un État. On est vraiment indépendant. On travaille en collaboration, bien sûr, avec le CNRS, les universités, les Frémères, etc. Mais on est à part. Au début, on était regardé d'une façon un petit peu spéciale par justement les universitaires, mais d'une façon bienveillante aussi, ils nous ont beaucoup aidés. Si vous voulez, on est très indépendant. On peut dire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et c'est un gros atout.
Harmonie, c'est le paradis.
Merci à Pascal Marcacci pour cette rencontre océanographique. Vous retrouverez plus d'informations sur le www.institut-paul.ricard.org.